Ça prend un tyran progressiste.
Vous êtes sérieux?
Oui.
Ça prend un tyran progressiste. Donc, vous, vous seriez à l'aise avec, mettons, on suspend la règle démocratique, il n'y a plus d'élection pendant un certain temps.
Ben,
mais le, si 2000... on est pour avoir des tyrans écologistes, c'est le prix à payer.
Ben,
on met en place une autocratie, une dictature éclairée, des leaders écolos à la Ferrandaise, puis on met de côté la démocratie.
Pas en 2019. Pas en 2019.
Mais en?
D'ailleurs,
mais en?
Ben, 2030. On s'en va là.
Ouais, ça, c'est quelque chose. Michel, salut.
Bonjour. Écoute, j'avais un autre sujet en tête.
Oui, oui.
Mais ce discours-là fait que ça me jette un peu par terre, je vais t'avouer.
En fait, ce que tu m'as dit quand tu es rentré dans le studio, tu m'as dit, j'écoutais l'entrevue avec Ferrandaise, j'étais dans l'auto, j'écoutais l'entrevue avec Ferrandaise, et le bout qui t'a jeté par terre, c'est le bout où il parle du fait qu'il va falloir arrêter d'avoir des enfants pour sauver l'environnement. Il va falloir arrêter d'avoir des enfants pour sauver l'environnement. Ça,
mais
là,
ce que je ne comprends pas, ce que j'entends pas, c'est qu'à deux mots, tu choisis le moins... Bouge pas mon Bernard. Je vais changer d'écouteur. Bon, merci, bienvenue dans ce merveilleux monde
excellent
de la radio.
C'est
dans les deux cas, c'est un scénario catastrophe. Entre deux mots, tu choisis le moins pire. Et là, alors, faisons le scénario. On laisse ça comme ça, on change rien, puis on se fout de l'environnement et on court
on
à
vit,
notre perte.
On vit dans un monde de plus en plus invivable.
Invivable.
Ça,
donc, on court à notre perte.
Oui.
À la perte de en tout cas,
oui, oui.
À la perte non seulement de l'être humain, mais aussi de la planète.
Oui, la nature qui meurt à petit feu, on perd...
Ou encore, on fait plus d'enfants, on sauve les eaux, on sauve l'écosystème, on sauve la planète, mais l'humain disparaît.
Non, ça n'a pas de bon sens.
Ça veut dire, c'est quoi, là? C'est comment? Y a-t-il une troisième option? Y a-t-il une option? Mon fils de 12 ans, je lui dis quoi? On parle de 2030. On parle de dans 12 ans, il y aura donc 24 ans, 25 ans. L'âge où il sera peut-être en couple, il rêvera d'avoir des enfants.
Regarde bien ça, là. Écoute,
je lui dis quoi aujourd'hui à mon fils? Non, s'il me posait la question ce soir, maintenant qu'il aurait écouté l'émission, et que mon fils me disait pas, moi, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir d'enfants? Je lui réponds quoi? Non, garçon, tu n'auras plus d'enfants, puis on espère que la planète va penser comme on pense actuellement, parce que sinon, ben, on s'en va dans le mur. Et il va me dire, dans les enfants qui naissent, si l'Holocauste n'avait pas existé, dans les 6, 7, 8 millions de personnes qui ont été exterminées, là-dedans, il y avait des chercheurs, des artistes, des savants, des gens qui auraient... Peut-être qu'on aurait réglé le cancer, on aurait réglé...
Il y avait peut-être quelqu'un dans ces morts qui aurait eu la solution, oui.
Oui.
Pour traiter le cancer.
Traiter le cancer. Alors peut-être que... Pas peut-être, mais faisons des enfants. Faisons des enfants, c'est peut-être eux autres la solution. C'est peut-être eux autres qui trouveront une manière moins horrible que ce que j'entends là, de dire non, merci, nous avons mis au monde d'abord. Maintenant, on va s'en occuper de ce monde-là. On va s'en occuper de cette planète-là. Voici nos moyens à nous. Voici notre vision à nous de
parce
ce
que,
qui
parce
suit.
Que c'est, moi, je suis d'accord avec toi, Michel, parce que si on commence à dire la solution, c'est de ne plus faire d'enfants, c'est comme si on disait il n'y a plus d'avenir pour nous.
Hey.
Et sais-tu quoi? Je suis convaincu, moi, que si on est pour passer au travers de la crise climatique, là, c'est parce qu'on va garder confiance en l'avenir, Christy.
En l'avenir,
En l'avenir. Il faut croire, il faut être optimiste. Si on tombe dans le pessimisme et dans le noir profond, moi, je pense qu'on est mort.
Et moi,
là, je pense qu'on est mort.
Grâce, il y a quelque chose, par contre, de très sain qui est sorti de l'entreprise. De très sain. Ça lui appartient, monsieur. On dit
Ferrandaise.
C'est que je suis content que de plus en plus de gens, et j'espère qu'on en fait partie, qui sont conscients qu'il y a un problème et qu'il faut y faire face. Tu sais, on le voit, on se le dit maintenant. Ça n'a pas de bon sens, la météo, ça n'a pas de les inondations.
Oui, il y a une prise de conscience.
Une prise de conscience
ça, c'est clair.
Qui se fait. Il faut arrêter
Je te dirais, à la vitesse grand V.
Grand V. Grand
je sais pas si tu as entendu le monsieur, là, Jean, là, qui était à la pêche avec son gars.
Oui, qui
là.
Dit, mais en fait, il n'y aura pas pêché, il n'y aura plus de poisson.
Il dit, je savais pas quoi y répondre. Puis il dit, Jean, c'est clair, là, il y a une couple d'années, là, il pensait pas que c'était bien important, là, mais là, il dit, en écoutant Ferrandaise, il m'a quasiment convaincu.
Moi aussi.
Tu sais? Bon. Alors, regarde bien. On va prendre des appels. 790-9850. La question qu'on va vous poser, c'est la suivante. Là, ne plus avoir d'enfants pour sauver l'environnement, oui ou non? OK? Je sais que c'est un peu direct, là, mais c'est
mais
ça.
C'est
plus avoir d'enfants pour. Parce que, regarde, la question se pose vraiment. Écoute bien ça, là. J'ai un texto qui arrive, là. C'est fou comment on écoute les scientifiques quand ça nous plaît et qu'on les discrédite quand ça nous plaît pas. Ma copine et moi avons 38 ans, bac et maîtrise en génie, et nous n'avons pas d'enfants pour, en bonne partie, les raisons climatiques. C'est rentré il y a 14 minutes, ce texto-là, Michel.
C'est qu'on est en train de se dire, on veut pas laisser à nos enfants un monde comme ça, donc on n'en aura pas.
Donc, ça vaut plus la peine de donner la vie, mon
Parce
ami.
Que c'est deux...
Pour sauver la vie, ouais. Ça vaut plus la peine de donner la vie.
Et c'est pire que ça, parce que non seulement c'est pour sauver la vie, mais c'est pour ne pas mettre au monde des enfants qui vivraient dans cet environnement-là.
Exact. C'est donc, comme d'une certaine façon, j'ai pas d'enfants... C'est pour leur bien.
Ouais.
Tu comprends?
Essaie de répéter lentement ce que tu viens de dire là. J'ai le poil qui se dresse.
J'ai pas d'enfants et c'est pour leur bien. Wow. C'est noir. Moi, j'aime pas
c'est
ça.
Noir.
Je te le dis, moi, j'aime pas ça.
On veut pas que ça soit.
Je veux pas aller là. Moi, là, on a beaucoup de gens qui nous appellent. Continuez. Maryse est en train de vous parler. On va vous entendre dans un instant. Alors, écoute bien ça. Avec le discours, un texto. Mm-hmm. 790-9850. 9-8-9-8-5, le texto. Avec le discours pessimiste de Ferrandez, on est aussi bien d'arrêter de faire la recherche pour trouver un remède contre le cancer.
Puisqu'on va disparaître.
Ouais.
Ouais.
Tu sais?
Mais c'est parce qu'il faut avoir un autre discours. Il faut avoir un discours plus...
Tu sais, en fait, il va plus loin que ça. Avec le discours pessimiste de Ferrandez, aussi bien d'arrêter de faire la recherche pour trouver un remède contre le cancer pour sauver ceux qui vont venir polluer.
Comment ça s'appelait, là, Luc en a parlé de la série, de la formidable série, La serveuse écarlate, c'est ça, les
serveuses écarlates? Oui, La servante écarlate.
La servante écarlate. Je veux dire, quand il parle d'un gouvernement qui serait... Mais j'ai un gouvernement, j'ai même de la misère à dire le mot gouvernement. Quand tu penses qu'on n'aurait pas d'élection, qu'on installerait quelqu'un en poste...
Écoute bien ça.
Oui.
Un texto qui rentre. Un enfant par couple diminue la population mondiale de moitié. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si sa projection est vraie, mais c'est sûr que si tu instaurais une règle comme celle-là, c'est sûr que rapidement, la population va diminuer. Les Chinois, d'ailleurs, ont testé cette hypothèse-là avec plus ou moins de succès parce que, comme on sait, c'était plus ou moins respecté.
On est loin du curé qui passe dans le village puis qui dit aux femmes en 1940.
Il y a plus de monde que je pense qui sont d'accord avec ça. Il y en a un qui m'écrit, dit le problème, c'est effectivement la surpopulation.
OK.
Le problème, c'est effectivement la surpopulation.
Entre faire moins d'enfants et ne plus d'en faire, il y a déjà
une maudite limite.
Limite. Là.
Alors, Mireille, bonjour.
Bonjour, mais en fait, c'est ça, je m'en vais dire, c'est que je pensais que ça faisait un peu trop drastique votre affaire de plus d'enfants du tout. Là. Je pense que le principe est plutôt de prendre conscience un peu de la portée, de mettre trop d'enfants au monde et peut-être de réduire justement à un, maximum deux. On sait très bien que dans certains pays, il y a aucune loi de c'est même interdit, je pense, d'avoir des contraceptions. Donc, il y a comme... Elle est là, la surpopulation.
On est déjà là, Mireille. On est à peu près à 1,5, 1,6 de taux de fécondité actuellement. Là, 1,6, 1,7.
Si on reculait dans les années 40-50, ne serait-ce qu'au Québec, là, tu sais, les familles de 12, 15.
Je pense
que ça n'a pas aidé beaucoup.
Mais...
le forçage de faire des familles de 18 et 13 enfants, je pense que ça n'a pas aidé beaucoup à la surpopulation.
Il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre non plus. Il ne faudrait pas passer de famille de 17 à 0, mettons.
Mais c'est un peu...
Les enfants pour le futur. C'est bien beau si on sauve la planète, s'il n'y a plus d'humains au bout, ça ne sert à rien non plus. Là.
Voilà, Mireille, voilà. Ça, c'est bien ramassé. Merci pour l'appel. Bonjour, Marie.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, je suis 100% d'accord avec ça, qu'on réduise beaucoup de faire des petits. Regardez, on est au courant de la destruction de la planète imminente depuis les années 70. Personnellement, j'accuse toutes les têtes dirigeantes de la planète d'avoir fait la sourde oreille depuis 40 ans.
Mais Marie,
oui?
on me dit là que les gens qui appellent présentement, là, ils pensent tous comme vous, OK?
Fantastique.
OK, mais attendez un peu, là. Jusqu'où vous êtes prête? Non, mais jusqu'où vous êtes prête à aller, là?
Moi, je suis prête à me priver de beaucoup de modernité, à retourner, s'il le faut, vivre comme ma grand-mère vivait.
Ouais.
Garde, c'est Marie. Ça. Moi, je suis très proche de la nature, puis garde, on l'a pété, la balloune. Mm-hmm. C'est de notre faute. C'est ça.
Ouais, parce que si on se pose la question du pourquoi de notre situation actuelle, il y a aussi, et surtout, et beaucoup, notre style de vie. Les gros chars, là, je me le place pour parler, là. Les gros chars, les grosses maisons, les TV,
les vacances,
les avions, les gadgets, les vêtements, les... Je veux dire, on consomme, on consomme, on consomme,
c'est
on consomme.
C'est clair.
Et là, on est devant un mur. Mais je pense qu'il faudrait peut-être justement être encore plus conscient de l'impact négatif qu'on a eu et de changer.
Mais changer, Michel, mais c'est un changement drastique.
Oui, mais entre ce drastique-là et ne plus faire d'enfants, je sais pas, là.
Je vais préférer le
retour à la Terre avec trois enfants que mon gros char puis zéro enfant, tu sais.
Répète-moi ça.
Je vais préférer le retour à la Terre avec trois enfants que mon gros char et zéro enfant.
Tes gros chars.
Mais, okay.
Tu serais prêt à renoncer à tes beaux chars puis retourner, mettons, dans un style de vie. Mais garder tes enfants.
C'est un discours différent parce que j'ai déjà expliqué que des voitures qui dorment dans le garage, ça pollue pas. C'est l'empreinte écologique qui est partie depuis longtemps.
Mais d'avoir un
changement.
Ouais.
Si on avait tous collectivement un changement de notre comportement.
Et
qui commence par. Qui commence par la consommation.
C'est sûr. Frédéric, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour. Simplement pour mentionner que ce ne sera pas à nous de choisir. Le système, les maths ne font pas de sentiments. Là.
Mm-hmm.
La population baissera parce qu'elle n'aura pas le choix. Si vous regardez l'étude du MIT qui a eu lieu dans les années 70 sur l'équipe Meadows, vous voyez que le système s'effondre aux alentours de 2035. Donc c'est bientôt ça. C'est pas nouveau.
Mais ça veut dire le système qui s'effondre, là?
Plus assez de ressources pour tout le monde. Donc, il va y avoir une tension sur les ressources, ce qui veut dire que tout le monde va se battre pour le même os. Et vous savez bien que quand vous êtes dans un système tendu, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, vous avez juste les maladies, les régimes politiques douteux et la guerre.
Donc, je ne suis pas si fou que ça si on accepte votre hypothèse, là. Mm-hmm. Je ne dis pas que je l'accepte, mais on jase. Si on accepte votre hypothèse, je ne suis pas si cinglé que ça que de dire qu'à un moment donné, il risque d'y avoir des demandes qui nous sont faites pour venir chercher une partie de l'eau que nous avons sur notre territoire.
L'eau n'est pas un problème, bizarrement. L'eau sur la Terre, vous en avez suffisamment pour tout le monde. Le problème, c'est la répartition et la propreté. Mais l'eau, en tant que telle, en tant que quantité, tant que vous avez de l'énergie, vous êtes correct.
Oui, mais là, nous, c'est parce que l'eau potable, il y en a beaucoup chez nous, puis elle est très propre. Alors, donc, il va y avoir des pressions qui vont être faites à un moment donné.
Elle sert aussi aux systèmes végétaux qui sont là, les marais, tout ça, enfin, ce qu'il en reste.
Là, on ira dire ça aux Américains, en Californie et compagnie, là. Je sais pas si, en tout
cas. L'exemple de Vegas était bon tantôt, en plus, parce que quand on parle de gaspillage.
Ben oui. Il n'y a pas d'affaire à avoir une ville là, honnêtement. Là.
Non, il n'y a jamais eu d'affaire à avoir une ville là. Hein? Dans une région, si on parle du Nevada, de la Californie, qui manque d'eau en partant, d'avoir en plein milieu de ces états-là une ville comme Vegas où il y a des fontaines 24 heures sur 24, puis qu'on fait venir l'eau de centaines de kilomètres au nord et tout, c'est comme une absurdité totale. Mais essaie de convaincre des Américains, tu dis, bon, mais regarde, on va commencer par là. Ça ne marchera pas.
Ben non.
Mais non.
S'ils avaient commencé par là, ça serait déjà fait, là. Mais ils sont pas là-dedans du tout. Ils sont pas là-dedans du tout. OK. On va s'arrêter. Écoute, on devait parler après la pause de ce que c'est que de se remettre de la perte d'un ami. Mm-hmm. Mais Sylvain, je trouve qu'on est loin, là.
Hey, Bernard, tu sais que ce qu'on entend là, ça peut être enregistré en 1974. C'est enregistré genre hier. Tu sais, je veux dire, Mick Jagger,
oui.
Opéré au cœur,
okay.
75 ans.
OK, c'est parce que là, attends un peu, explique-le.
Je sais qu'on devait
revenir. On devait continuer, mais là, on s'est entendu pendant la pause là, qu'il fallait changer de beat, les auditeurs. Et on a eu la nouvelle pendant la pause que Mick Jagger...
Oui, il y a de l'espoir là-dedans, il y a de la vie là-dedans.
Voilà, il y a de la vie, il y a de la vie.
75 ans, ça a viré, ça a pris de la dope, ça a tout fait
puis là,
dans
il a été opéré au cœur, on apprend ça, puis il pète le feu.
Pète le feu, il y a une vidéo pour le prouver, il chante puis il danse comme s'il avait 20 ans.
Il vient de mettre ça sur Twitter. Fait que là, on s'est dit, regarde, on va sortir là,
de la grande noisseur.
Oui, puis on s'en va vers la vie et la résilience.
Ouais, et l'espoir.
L'espoir.
Hier, Denis Lévesque recevait une dame de 100 ans et qui pète le feu, elle aussi, qui vivait seule à sa maison, puis ça se faisait à manger, puis c'est elle qui s'occupait de ses économies, puis son compte de banque, puis laisse-moi tranquille, puis souriante, pas allumée. Et je lui ai dit, j'en veux... centenaire.
T'espères être demain à 100 ans.
Je serai jamais demain à 100 ans. Mais non, mais
on espère.
Moi, je me dis tout le temps, non, parce que j'ai eu quand même des années rock'n'roll. Ben voyons, j'aurai pas jamais le dixième de ce que Mick Jagger aura eu comme vie rock'n'roll.
Je la vois, la vidéo, là. Vous pouvez aller voir ça sur Mick Jagger. C'est at Mick Jagger. Ouais. Et puis là, il danse, puis il fait son fanfaron, là, puis il s'amuse. Puis le gars, ils ont changé la valve du cœur. Ils ont remplacé une valve du cœur défectueuse. Puis là, il se déhanche.
Le grand-père de ma femme, ouais. Ray Lockwood, il a 97 ans. Conduit son camion, on voit les chiens, puis le cheval, puis on sort dehors, puis et ma femme, je vais le dire, parce que je pense pas qu'on m'en veuille, ma femme m'a dit, puis en plus, là, le grand-père, il aimait ça pour son petit verre, puis des fois...
Petit gin?
Ouais, puis des fois deux, puis des fois plus.
Juste le gin?
Je sais pas ce qu'il buvait, mais...
Non, mais attends, c'est parce que...
Il a vécu, là, il a eu du fun dans la vie.
Non, mais c'est parce que moi, là, depuis que je fais cette émission-là, là, okay. C'est arrivé une couple de fois, j'ai fait des sujets, là, sur le fait que, finalement, là, tu sais que tu peux vieillir, puis garder une vie sexuelle très en santé.
Mais veux-tu que je t'en parle? Veux-tu que je te parle de mon grand-père?
Tu veux me parler de ta vie?
Pas de la mienne. Quand je serai vieux, je t'en parlerai.
Bon, OK. Non, mais attends. Non, mais moi, ce que je veux... Non, mais on s'est dit tout à l'heure, pendant la pause, on va demander aux auditeurs, connaissez-vous quelqu'un qui est âgé, là, puis qui pète le feu, puis comment vous l'expliquez? C'est bon, ça?
Oui, c'est bon.
790-9850, 98985. Mettons, là, je sais pas, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, votre père, je sais pas quoi. Mettons, là, ils sont rendus loin, là. Ils sont vieux.
J'ai vu un reportage, mais
ils sont inspirants parce que, écoute, ils sont pleins de vie.
J'ai vu un reportage, en fait, semaine passée, sur celui qui avait fait la traversée entre Cuba et Key West à la nage. C'est un gars qui c'est un grand nageur, là. Puis à un moment donné, il a voulu faire un rapprochement dans les années 70 entre les Cubains et les États-Unis suite, bien sûr, à l'embargo. Et il avait à ce moment-là 65 ans. Il a nagé, genre, 160 kilos parce qu'il est pas arrivé à Key West, il arrivait un peu plus haut, là. Les requins, des affaires. Puis ils l'ont récompensé au début des années 2000. Il devait avoir comme 80 quelques. Puis il est encore là, solide, prêt à sauter à l'eau, pour aller se battre contre des requins. Tu sais quoi, ces supermen-là? Ces superwomen-là?
C'est souvent des superwomen. D'ailleurs, oui. Alors, Maxime, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Oui, donc, ça va très bien vous-même.
Très bien, très bien.
Très bien. Écoutez, en fait, là, je vous appelais parce que ça m'a inspiré là, votre sujet, justement, là, de personnes qui vieillissent en santé. Mon grand-père a 81 ans, puis il vient encore à la chasse avec nous. Il prend son stock, il ramasse, il marche dans le bois. On fait un mille dans le bois pour se rendre à nos caches. Il fait encore ça tout seul, très actif. Puis le secret, en fait, que lui-même m'a dit, c'est ça y prend quelque chose à faire. T'sais, si la journée où il n'y a plus rien à faire,
c'est fini.
On dirait qu'il perde un petit peu le l'envie, justement, là, de pas de vivre, mais disons qu'il y a moins de but, finalement, à ce qu'ils font.
Ben, l'envie de vivre, Maxime, je pense que vous n'êtes pas loin.
Oui, puis l'activité, la madame, le centenaire, hier, disait, elle voulait pas aller dans un centre de personnes âgées, parce que...
C'est un mouroir.
Ouais, exactement.
C'est devenu des mouroirs.
Mon grand-père, là, qui était un gars actif, il avait un gros accident dans les années 70, il était légèrement handicapé, mais quand même... Tout le temps où il a resté chez lui, qui a vécu chez lui, puis il avait son char, puis il faisait ses affaires, puis il sortait dehors, puis il tondait son gazon, il a pété le feu. Le jour où il est rentré au foyer... Là,
ça a été fini. Ça a été fini. C'est Guy maintenant. Merci, Maxime, pour l'appel. Guy, bonjour.
Oui, bonjour, c'est moi qui parle. Là.
Bon, vas-y, Guy.
Ben, je voulais te raconter une aventure. On retourne quand j'étais jeune, j'avais 77 ans. Puis dans mon sol, le plancher s'est mis à lever sur mon plancher d'ardoise. Là, j'ai fait faire un test. C'était ce qu'il fallait lever les planchers, là. Mon Dieu, j'oublie le nom.
L'eau?
Non, c'était pas de l'eau, c'était de la...
L'humidité?
L'oxyde de fer dans la roche.
Ah, OK.
OK, fait que, il fallait tout changer ça. Il y a un entrepreneur qui est venu, il m'a demandé 50 000. Wow. Fait que moi, j'étais jeune, j'avais 77 ans, j'ai dit, oublie ça. J'ai tout fait ça moi-même. J'ai tout cassé les dalles de béton. J'ai tout sorti ça à la main. J'ai acheté 700 sacs de béton que j'ai rentré aussi à la main. Je me suis fait une dalle de béton. J'ai posé mon ardoise. Après ça, dans l'atelier, tout ça, j'ai posé ma céramique. J'ai tout fait ça moi-même. J'ai fini ça, j'avais 80 ans.
Et là, vous avez quel âge?
Moi, je vais avoir 85 ans le 4 septembre.
Oh! Wow! C'est quoi votre secret?
Ouais.
Ben écoutez, ben vous racontez le début de mon secret. On retourne en 1947. Ma mère, elle voit des chambres. À un moment donné, c'était juste après la guerre, ça. Il est arrivé un soldat chez moi, là, chez ma mère. Puis il y avait la carabine, puis le casque d'acier. Puis un petit gars, moi j'avais 14 ans, tout impressionné. Fait qu'il a loué une chambre chez nous durant deux semaines parce qu'il fallait qu'il aille au 22e régiment pour à propos de sa retraite. Fait que je me suis mis chum avec. Puis là, à un moment donné, il y avait un livre sur son bureau, sur le bureau. Fait que je disais, j'y demande, j'ai dit, il me souvient de son nom, là. Tancrède, imagine-toi. Ça fait que mon Tancrède, il me dit ça, il dit, c'est un livre pour les rampants. Mais j'ai dit, c'est quoi ça, les rampants? Mais c'est dans l'armée. Il dit, tous ceux qui font pas d'exercice physique, comme les chauffeurs, ceux qui font la vaisselle, les cuisiniers, tout ça, le gouvernement les force à faire des exercices de physique qui sont dans ce livre-là, puis c'est une progression, il dit. Fait qu'à un moment donné, il me regarde et dit, t'es pas mal chicot, toi. Tu devrais faire ça. Fait que je prends le livre, je regarde ça. Mais crois-moi que vraiment pas, j'ai commencé ces exercices-là, j'avais 14 ans. Puis je pense que j'ai pas manqué un matin que je finis ça, puis même je l'ai amélioré. Puis à mon âge, je finis ça avec entre 15 et 20 push-ups à chaque matin, à chaque soir, après que mes exercices sont finis.
Oh, après les exercices, en plus.
Excellent. Guy, bravo, lâchez pas.
On veut le livre.
Oui, on veut le livre. On veut le livre, Guy. Rappelez-nous pour nous donner le livre, là, puis continuez à faire vos push-ups, puis rendez-vous à 100, là. Objectif 100.
Ça s'appelle le 5BX.
Le 5BX. Bon, écoute, je
suis pas sûr. C'est imprimé par le gouvernement fédéral. Il paraît que ça existe encore.
On va trouver ça.
Merci, Guy. Merci, le 5BX. Diane.
Oui.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, écoutez, connaissez-vous le centre EPIC, le centre sportif de l'Institut de cardiologie de Montréal?
Non.
Non.
Ben, mon père, il va là. Il a 3 fois par semaine, il joue au volleyball. Il va avoir 94 ans. Au mois de septembre.
Attendez, il va 3 fois par semaine jouer au volleyball et il a 94 ans. Donc, ce que vous me dites, c'est bouger.
Bien, bouger. Puis lui, dans ses secrets, là, il pourrait vous entretenir pendant des heures de rester positif.
Ça fait du bien.
La pensée positive.
La santé, oui. Non, mais c'est tellement vrai.
On pourrait peut-être envoyer Ferrandez à ce centre-là, 3 jours semaine.
C'est un phénomène. Ça fait, je pense, 30 ans qu'il va là parce qu'il avait eu des problèmes de cœur. Puis c'est ça. Il continue à aller jouer au volleyball. Il se lève, je pense qu'il va là à 7 heures le matin. Là, puis il dit tant qu'ils vont m'accepter, qu'ils vont vouloir jouer avec moi, parce que les gens qui jouent avec lui ont plus 50, 60, ils vont là avant d'aller travailler. Ben, lui, il joue avec eux, puis tant qu'ils vont l'accepter, il continue à aller jouer.
Hey, volleyball, 92 ans. Ouais. C'est fort.
Mais là, où j'en viens pas,
Il monte-tu au filet, Diane? Est-ce qu'il monte au filet pour bloquer le ballon?
D'après moi, oui. D'après moi, oui.
Merci pour l'appel.
Mais ce que j'entends, c'est de bouger, d'un, puis de deux, ce que je reviens au grand-père de ma femme, c'est que, oui, il bouge, il arrête pas de bouger, puis de temps en temps, il va y avoir une grippe, puis ça le ralentit un peu. Mais c'est pas quelqu'un qui s'est privé. Ça a mangé du lard salé, ça a pris un coup.
Mais c'est resté actif.
Il s'est pas effoiré dans le coin, t'sais.
Et parlant de rester actif,
oui?
On va sortir de notre belle discussion. Comme ça. Start me up!
Oh yeah, start me up!
1981, mesdames et messieurs. On est mieux dans cet univers-là, hein? L'énergie est positive, se bat pour la vie, on essaye de rester en santé.
C'est ce que je vais faire après-midi. Je vais aller faire des enfants.
Ben là.
Ben oui!
Parle-en à ta femme avant, OK?
Ah, oui, c'est pas de tête.